Elina, Célia, Lola, Mathias, Edgar et Raphaël, si aujourd'hui vous demandez à faire votre première communion, c'est que vous avez reçu un appel du Seigneur, un appel de Jésus. Et dans les lectures que nous venons d'entendre aujourd'hui, on nous parle d'appel et on nous parle de réponse à cet appel. Dans la première lecture tirée du livre des rois, le premier livre des rois, il y a l'appel d'Élisée. Voyez, Élisée qui était là et qui était en train de labourer. Et Élie, le prophète, va l'appeler et va lui dire « Le Seigneur t'appelle ». Il va même passer près d'Élisée et jeter vers lui son manteau. Et Élisée va quitter son travail et va courir derrière Élie pour le suivre. En fait, Dieu nous appelle dans notre quotidien. Et quand on regarde dans la Bible, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Dieu a appelé Moïse, il a appelé David, alors qu'ils étaient derrière leur troupeau. Il a appelé le petit Samuel, qui était en train de dormir. Il a appelé Matthieu, le publicain, qui était à son bureau de douane, en train de faire son travail. Il a appelé les apôtres, les disciples, qui étaient en train de pêcher. Dieu nous appelle toujours dans notre quotidien. Parfois, on voudrait qu'il y ait des appels extraordinaires. Peut-être que Dieu nous apparaisse ou qu'on ait une apparition de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça qu'il agit. Dieu nous parle dans le quotidien de nos vies. Simplement, il faut ouvrir nos yeux pour découvrir la présence du Seigneur. Et Élisée, qui était en train de labourer son champ avec ses bœufs, eh bien, a reconnu à travers le geste d'Élie, qui a jeté sur lui son manteau, ça devait avoir une signification pour lui, qu'il fallait qu'il suive Dieu et qu'il suive aussi le prophète Élie. Alors voyez, qu'est-ce qu'il va faire ensuite ? Il va demander d'aller embrasser ses parents, son père et sa mère. Et que fait-il ? Il va prendre sa paire de bœufs pour les immoler. Il les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Quand Dieu nous appelle, eh bien, on essaye de répondre de manière radicale. Et s'il y a des choses qui nous empêchent de répondre à cet appel, eh bien, on les supprime et on les brûle. C'est ce que va faire Élisée. Sa réponse est nette et précise. Tu m'appelles, Seigneur, eh bien, je te suis. Et je laisse derrière moi tout ce qui peut m'empêcher de répondre à ton appel. C'est ce que nous découvrons aussi un peu dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus monte à Jérusalem et il va traverser un village de Samaritains. Les Samaritains ne croyaient pas en Yahvé. Ils étaient des Juifs, mais leur foi n'était pas tout à fait pure. Ils montaient sur le mont Garizim aussi pour adorer Dieu. Ce n'était pas la même chose que les Juifs qui allaient au temple de Jérusalem. Et ils vont avoir du mal à accueillir Jésus dans leur vie. D'ailleurs, on nous le dit, on refusa de recevoir Jésus. Et donc, il y a les apôtres qui essayent d'annoncer l'Évangile et les Samaritains qui refusent. Et que disent les apôtres ? Quand même, ces gens-là refusent de recevoir Jésus ? Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? Quand parfois, autour de nous, nous avons des copains, des copines, des amis qui ne croient pas en Jésus. On ne va quand même pas demander à Dieu de les détruire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Contrairement à ce que voulaient faire les apôtres, on va essayer de leur parler et on va prier pour eux, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur pour accueillir la parole du Seigneur. Vous voyez, là, la réaction des apôtres n'était pas bonne. Et Jésus va d'ailleurs le dire aux apôtres. Il va se retourner, il va réprimander les apôtres, et puis ils vont aller dans un autre village. Nous sommes dans une société où beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, mais où nous devons être aussi missionnaires. Nous ne sommes pas là pour imposer notre foi, mais nous sommes là pour proposer la foi. Et vous, les parents, parrains et marraines, vous devez aussi accompagner vos enfants, vos filleuls, pour qu'ils découvrent de plus en plus la foi que vous-même vous avez reçue et que vous voulez leur transmettre. Parfois, certains me disent « Ah, mais vous savez, on ne va pas non plus inscrire notre enfant au catéchisme, il choisira quand il sera plus grand, parce qu'on ne veut pas lui imposer la foi. » En même temps, pour pouvoir choisir, il faut connaître. Et le jour où vous avez baptisé aussi vos enfants, vous vous êtes engagé à ce qu'ils aillent ensuite à l'éveil à la foi, au catéchisme, pour qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu, et puis ensuite, librement, ils puissent aussi faire leur propre choix. Regardons bien aussi dans l'appel d'Élisée. Élie qui appelle Élisée. Il jette son manteau et puis ensuite, il y a une réaction assez étonnante. Élie jette son manteau vers Élisée et Élisée lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Et Élie répondit quoi ?« Va-t'en, retourne là-bas, embrasser ton père et ta mère, je n'ai rien fait. » C'est étonnant ce « je n'ai rien fait ». Il vient de jeter son manteau et il dit « je n'ai rien fait ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Élie, en jetant son manteau, appelle Élisée à suivre le Seigneur, mais en même temps il dit « je n'ai rien fait, je te laisse libre ». Si tu veux répondre à l'appel du Seigneur, tu réponds. Si tu ne veux pas répondre, tu n'y réponds pas. Et donc, en fait, nous, les adultes, nous devons tout faire pour que les enfants et les jeunes générations soient dans les conditions optimales pour répondre librement à l'appel du Seigneur sans les forcer, mais en même temps, en leur montrant aussi le chemin et en leur montrant la voie. C'est cela aussi, être de véritables éducateurs. C'est pour ça que je dis toujours, lorsqu'il y a des communions, lorsqu'il y a des baptêmes, non seulement il faut prier pour ceux qui reçoivent le sacrement, les enfants qui reçoivent le baptême ou qui font leur première communion, mais il faut prier aussi pour les adultes, pour que nous soyons véritablement de vrais éducateurs et que nous assumions aussi notre rôle de parents, de parrains et de marraines. Et c'est nous qui sommes, comme parrains, marraines et parents, les premiers catéchistes aussi des enfants. C'est très important cela. Donc il y a toujours un appel dans nos vies, l'appel de Jésus à le suivre. Et puis ensuite, justement, une fois qu'on a voulu suivre le Seigneur, eh bien, quelles sont les conditions pour suivre Jésus ? Dans l'Évangile, on le voit aussi. Jésus va rencontrer trois catégories de personnes. Et on va voir que parfois, ce n'est pas toujours évident de suivre le Christ. Pas tant parce que le chemin est difficile, mais parce que parfois dans notre cœur, nous avons du mal à faire de la place pour le Seigneur. Et je reprends ces trois rencontres de Jésus avec les disciples. C'était dans l'Évangile que nous venons d'entendre. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui déclare, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus appelle ce premier homme et lui dit, « Pas de problème, je te suivrai partout où tu iras. » Il y en a un autre d'ailleurs qui avait dit ça à Jésus, vous vous rappelez ? C'est Saint-Pierre. Jésus lui avait annoncé qu'il le renierait trois fois. Et Pierre a dit, « Non, 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 ça ne m'arrivera pas. » Et Jésus lui a dit, « Tu verras, le coq n'aura pas chanté trois fois que tu m'auras renié trois fois. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on veut suivre Jésus, attention de ne pas compter trop sur nos propres forces. « Si, 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 il n'y a pas de problème, je vais y arriver. » Jésus nous dit aussi, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandez l'aide de Dieu. » Si nous voulons être fidèles pour suivre Jésus et pour mettre en pratique ses commandements, eh bien, nous devons demander l'aide d'autres personnes. L'aide de nos parents, l'aide de notre parrain, de notre marraine, l'aide de personnes croyantes dans la paroisse. Voilà pourquoi nous nous rassemblons aussi le dimanche. Ce n'est pas pour accomplir un précepte, parce qu'ensemble, lorsque nous sommes tous rassemblés, nous sommes plus forts. C'est-à-dire que nous nous tournons ensemble vers le Christ et ensemble nous nous encourageons. Quand pendant la semaine, c'est parfois difficile d'être fidèle, de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, rendez-vous service, soyez humbles, ce n'est pas toujours évident. Et si on compte uniquement sur nos propres forces ou sur les biens matériels que nous avons, eh bien, nous n'arriverons pas à suivre le Christ véritablement. « Oui, oui, je te suivrai partout où tu iras. » Attention, ne soyons pas trop présomptueux. Et si nous ne nous appuyons que sur des choses matérielles, c'est ce que nous dit Jésus, hein, « Les renards ont des terniers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, il va nous envoyer dans des chemins où parfois il n'y a pas toutes ces sécurités matérielles. Sommes-nous prêts à suivre le Christ ?» Jusqu'au bout. C'est la première rencontre que Jésus fera sur la route. La deuxième est aussi un peu étonnante. Il dit à un autre, « Suis-moi !» Et l'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Cette parole de Jésus, elle est dure. « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Cet homme disait quelque chose de juste. Je veux d'abord aller enterrer mon père. » Et vous savez que dans la tradition juive, c'était très important, et encore actuellement, eh bien, de prendre soin aussi de nos défunts, d'enterrer dignement aussi nos défunts, d'aller aussi au cimetière pour aller prier aussi pour nos défunts. Alors pourquoi Jésus dit cela ? En fait, il y a un petit mot qui change tout. « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Quelles sont les priorités que nous mettons dans nos vies ? Dieu devrait être le premier servi. Vous savez, c'est la devise de sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Sur son étendard, quand elle a combattu aussi pour délivrer le royaume de France contre les Anglais au moment de la guerre de Cent Ans, eh bien, il y avait cela, « Dieu premier servi ». Et je vous l'ai souvent dit, il faut mettre Dieu en premier dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il prendra toute notre journée, tout notre temps, mais ça veut dire que si on le met en premier, en priorité, eh bien tout le reste va s'organiser autour, voilà, de lui. Mais si nous pensons à Dieu quand nous y pensons, eh bien ça n'ira pas. Si nous faisons d'ailleurs toutes les choses qui nous occupent, qui nous inquiètent dans notre vie en premier, eh bien, on ne pensera jamais au Seigneur. Certains me disent « Mon Père, je n'ai pas le temps de prier. » Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Vous savez, si par exemple le week-end, en fait finalement le dimanche plutôt, qui est le premier jour de la semaine, nous commencions par nous dire « C'est le jour du Seigneur. » Eh bien, commençons par honorer le Seigneur, par nous tourner vers lui. Et après, on organise le reste de notre dimanche autour de cet élément central qui est la rencontre avec le Christ, ben, ça changera tout. Parce qu'en plus, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, ça veut dire que eh bien, toute notre semaine sera tournée vers Dieu et on le mettra en premier dans nos vies. Vous rappelez aussi ce que je vous dis souvent quand je passe dans les groupes de caté. Le matin, quand le réveil sonne, quelle est la première chose à faire avant de s'habiller, avant de se laver? Je me mets assis sur mon lit ou je me mets à genoux devant l'image de la Vierge Marie que j'ai dans mon coin prière ou du crucifix. Et je fais simplement, lentement, le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je te confie cette journée. La première chose que je fais, ça m'a pris 5 secondes. C'est pas long, mais en même temps, ça permet d'orienter toute ma journée vers Dieu. Et je peux faire pareil le soir, avant de me coucher. C'est ça, mettre Dieu en priorité. Sinon, on a plein d'autres choses qu'on pourrait faire passer avant. Alors que nous savons que si nous mettons Dieu en priorité dans nos vies, eh bien toute notre vie prendra une autre dimension. Car d'ailleurs, la vie, nous la recevons de lui. Voilà. Et puis, dernière rencontre, un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Quand on a fait un choix, quand on a suivi le Christ, eh bien, on essaye d'assumer ce choix et d'aller jusqu'au bout. On ne regarde pas en arrière. « Ah ben finalement, si j'avais pris un autre chemin, ça aurait été peut-être différent, etc. » Non. Je suis là, le Seigneur m'a appelé, je choisis de le suivre. Eh bien, même s'il y a des difficultés, j'avance et je persévère. Vous savez, c'est aussi le grand drame de notre monde d'aujourd'hui. Quand on fait des choix qui devraient être définitifs, dès qu'il y a une petite difficulté, parfois, on rebrousse chemin et on est malheureux. Dans la vie, eh bien, il faut prendre le temps de discerner, de faire des choix. Et une fois qu'on a fait un choix, eh bien, on demande d'aller jusqu'au bout. Et on ne change pas en fonction des circonstances. Parce que vous savez, nous sommes heureux quand nous faisons des choix dans notre existence et quand nous les assumons. Voilà. Alors bien sûr, peut-être que de nos jours, c'est exigeant d'être chrétien. Voilà. Il n'est pas facile d'être chrétien tous les jours. Il n'est pas facile de vivre de son baptême. Aujourd'hui, vous allez recevoir Jésus dans votre cœur en faisant votre première communion. Eh bien, comme je vous le disais, puisse ce moment être une étape dans votre vie chrétienne et pas un aboutissement. Parfois, certains font leur première communion, puis après, voilà, mon père, j'ai tout fait, c'est fini. Quel dommage! C'est pas ça le sens de la première communion. Le sens de la première communion, c'est que je t'accueille, Seigneur, dans mon cœur, et je veux que jour après jour, tu m'aides à avancer. Et dans mon quotidien, si vous ouvrez véritablement votre cœur au Seigneur, il vous aidera dans votre quotidien, quand vous serez à l'école, quand vous serez au collège, quand vous serez en famille. Voyez, Élisée, il a été appelé alors qu'il labourait avec ses bœufs. David, il travaillait aussi avec ses moutons et les pêcheurs étaient sur le lac de Tibériade. Si nous ouvrons véritablement notre cœur au Seigneur, si nous voulons le suivre jour après jour, il nous aidera dans notre quotidien. Et notre vie sera meilleure puisqu'elle sera vécue sous le regard du Seigneur. Alors, oui, nous allons prier pour vous, Elina, Célia, Lola, Mathias, Edgar et Raphaël. Et nous allons prier aussi pour vos parents, parrains et marraines. Et nous allons prier les uns pour les autres, pour que nous vivions toujours davantage de notre baptême. Et que malgré les exigences de la suite du Christ, eh bien, nous continuons toujours à avancer. Vous savez, la difficulté, ce n'est pas de tomber parfois quand on avance sur le chemin. On peut toujours se relever. Mais si on s'arrête d'avancer ou si on retourne en arrière, on n'avance plus. Alors demandons au Seigneur la grâce d'avancer toujours sur ce chemin de notre vie chrétienne, chacun d'entre nous, où que nous en soyons, et que, eh bien justement, cet accueil du Seigneur dans nos vies nous remplisse jour après jour d'une joie immense. Amen.